Et il y a des visages que je n'ai pas vus la dernière fois, il me semble, si ma mémoire est bonne. Donc vous sachiez qui vous parle, juste deux mots me concernant. Pierre Evurts, 61 ans, amateur de tomates, marié depuis 37 ans, avec une jolie calabraise, qui est née là-bas, mais qui a vécu en France, qui s'appelle Pascaline, tout le monde l'appelle Lina. Nous avons 4 enfants, 5 petits-enfants, voilà, pour l'instant. Voilà. Merci. J'ai été éducateur, j'ai été pasteur pendant 25 ans, et maintenant je suis pasteur d'une toute petite église qui compte 2 personnes. C'est un accueil familial que nous faisons avec le conseil général du Haut-Rhin, enfin maintenant c'est le CEA alsacien, et nous accueillons 2 personnes qui vivent avec nous, un monsieur qui est guyanais d'origine, qui a 35 ans, qui est schizophrène, et un autre monsieur qui est avec nous depuis 2 mois, qui est autiste, qui a 52 ans. Voilà, donc ils vous saluent tous les deux, ma femme aussi. C'est un petit peu compliqué de les emmener, parce que ça ferait long pour eux, et la route, et de tenir en culte 1 heure. Mais voilà. J'ai parfois dit que j'ai l'impression de vivre plus l'évangile maintenant dans ce contexte que quand j'étais pasteur, parce que quand on accompagne, comme nous essayons de le faire, 2 personnes en situation de handicap, la grâce, il faut que ce soit une réalité. Hein, sinon, on tombe vite dans la maltraitance, dans l'énervement, parce que l'autre est différent. Et pas seulement en cause du handicap, parce qu'il y a aussi la culture qui joue, il y a l'histoire familiale, etc. etc. Bref, hein, j'aurais pu te donner les notes, comme ça tu aurais continué après l'introduction, hein, pour les points suivants. C'était bien parti. Merci d'avoir fait ce rappel, ça me fait gagner du temps. J'aimerais en effet continuer à parler avec vous ce matin de cette notion de la grâce, un mot que nous connaissons tous, qu'on a chanté, qu'on a lu. Et pourtant, comme je l'ai dit la dernière fois, probablement, parce que je le dis toujours, j'ai parfois l'impression que nos églises manquent beaucoup de grâce. Et si elles étaient, si nous vivions ensemble, je parle maintenant communautairement, sans parler de chacun d'entre nous, mais communautairement, vraiment la grâce dans tout ce qu'elle a d'exigence et de richesse, probablement que nos églises seraient remplies. Alors c'est une formule, mais en même temps, je dis souvent, hein, moi j'ai fait des travaux avec des psychologues assez longtemps par rapport à mon histoire personnelle un peu compliquée. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va dépenser 50 euros, 60 euros, tous les 15 jours, toutes les semaines, certains. Et l'autre jour, j'ai même entendu quelqu'un qui allait faire une cure psychanalytique pendant 7 ans. Et la première année, il y allait 5 fois par semaine. Alors bon, il avait des sous, donc il pouvait se le permettre. Si ce n'est parce qu'il trouve simplement un lieu où on les écoute, où on ne les juge pas. Et qu'est-ce que ça fait de bien? D'ailleurs, moi, ça me frappe toujours. Je m'intéresse beaucoup aux autres. C'est pas une vertu, c'est que je suis construit comme ça. Et donc, quand on est lors d'un repas ou avec des gens que je ne connais pas, je leur pose des questions. Et je suis frappé de voir combien les gens aiment parler d'eux, finalement. Hein? On aime tous raconter qui on est, ce qu'on fait, etc. Et c'est encore mieux si, quand on dit qui on est, les gens ne nous jugent pas. Hein? Parce que sinon, on se referme comme une moule ou comme une huître. Hein? Et Dieu sait que nos églises sont douées pour ça. Alors je ne parle pas de la vôtre en particulier, parce que je ne vous connais pas, donc je parle librement, hein, je pense à personne, ne vous sentez pas jugé, en tout cas pas pour moi. Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quand je disais tout à l'heure, si nous vivions la grâce, ça veut dire que si nous vivions la grâce entre nous, ça suppose pour ça que nous-mêmes nous la vivions. Hein. Pas donner ce qu'on n'a pas reçu. La grâce comprise, intégrée au plus profond de soi. D'une certaine manière, c'est le travail d'une vie, et en même temps, ça devrait être quelque chose qui est planté profond au moment où on devient chrétien, quelle que soit la manière dont nous rencontrons Dieu. Il me semble que nous devrions être les témoins de cela. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. qui de vous donnerait un caillou? C'est Jésus qui parle, hein, on est dans Matthieu 7. À son fils, si celui-ci lui demande du pain, ou bien s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Je ne sais pas si je suis le texte. Hein. Mais je crois que je ne vais pas être pour faire les deux en même temps, c'est pas grave.
Hein? Un peu technicien comme moi.
Non, mais. Ah, c'est là-bas qu'il faut aller, d'accord, ok. Je pensais que c'était dedans. Merci. Ou bien s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Sinon, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien de fortes raisons votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Dieu dit ça à des auditeurs qui connaissent bien Dieu, en tout cas qui croient le connaître, qui sont des gens religieux. Parce qu'à l'époque, tout le monde était religieux, comme tout le monde était catholique en France il y a 50 ans. Mais la plupart d'entre eux n'avaient absolument pas compris que le Dieu dont parlait l'Ancien Testament déjà, parce qu'il n'y a pas un Dieu de l'Ancien Testament et un Dieu du Nouveau Testament, c'est un Dieu qui veut notre bien. Toujours. Toujours. Y compris quand ça ne marche pas. Parfois, j'ai l'impression qu'on va chercher quelque chose chez Dieu quand on a épuisé toutes les autres ressources. Hein? Comme si c'était, on ne va pas le déranger pour un petit truc. Hein? J'avais un ami, un personnage, un homme très atypique, il a eu plusieurs vies. Et dans la dernière, il était artisan, donc il faisait boulot, rénovation de maison, etc. Et puis, il me dit, mais tu sais, moi, souvent, je prie pour retrouver mes vis. Alors quand j'ai vu son atelier, j'ai compris pourquoi il priait souvent. Et j'ai rigolé quand il m'a dit ça. Mais au fond, est-ce que Dieu peut s'occuper de nos vices? De cet objet qu'on a oublié, qu'on cherche? Des petites choses de la vie?
Les vices, les vices.
Ou est-ce que Dieu est trop occupé? Et Dieu n'est pas le président de la République, hein, occupé dans les grandes sphères. Hein. Il est quelqu'un qui est capable de s'occuper de ce matin avec nous ici à Darnay, puis en même temps il est en Chine, puis en même temps il est au fin fond de l'Afrique quelque part, et il peut gérer tout ça sans problème. Et puis Dieu, on ne va jamais le déranger, puisqu'il n'y a pas un moment où il est de mauvaise humeur, un moment où il est fatigué, etc., comme nous le sommes. Hein. Avec nos limites. On va chercher quelque part quand on croit qu'on a une chance de trouver ce qu'on cherche, là où on le cherche. Vous avez été enfant, vous avez des enfants, des petits-enfants, vous savez comment ça marche. Hein? Je demande à papa, si ça ne marche pas chez papa, je vais chez maman. Hein? Ou l'inverse. C'est ça. Est-ce que tu crois? Est-ce que nous croyons qu'effectivement ça vaut la peine de chercher auprès de Dieu? De frapper parce qu'il va ouvrir et qu'il ne va pas passer du temps à nous faire attendre derrière la porte comme certains médecins. J'ai parfois l'impression qu'ils prennent un malin plaisir à nous faire attendre une heure dans la salle d'attente. Je ne veux pas m'y dire, hein, mais bon, parfois ça m'énerve. Comprendre la grâce et l'intégrer signifie être convaincu que quand on cherche auprès de Dieu, on trouve. On ne peut pas faire plus simple. Et ne vous précipitez pas pour dire oui simplement intellectuellement. C'est une préoccupation ces derniers temps. Parce que j'ai parfois l'impression que on peut prêcher de manière logique, rationnelle, sans que ça touche nos cœurs. Parce que être chrétien, c'est une affaire d'expérience, c'est pas simplement une affaire de connaissance. C'est pas une question de connaissance. Pas pour rien que Jésus dit « redevenez comme ces petits-enfants ». Chez qui il y a cette capacité parfois à saisir des choses que nous ne comprenons pas ou que nous n'acceptons pas, nous, en tant que grands, en tant qu'adultes. L'apôtre Jacques le dit tellement bien, tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père qui est toute lumière et en qui il n'y a ni changement ni ombre dû à des variations. Chapitre 1er, versets 16 et 17. Si l'ennemi aimerait nous faire croire le contraire, si les circonstances aimeraient nous faire croire le contraire, si nos raisonnements aimeraient nous faire croire le contraire, ne nous trompons pas. Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut. Toi, tu peux laisser, Julien. Nous pouvons donc être libres quant à nos besoins, nos attentes, nos requêtes. Combien de fois dans des réunions de prière, j'ai eu l'impression que quand quelqu'un demandait à ce qu'on prie pour quelque chose, c'était forcément quelque chose de grave, genre un cancer, ou... Si au chômage, etc., on ne va pas déranger Dieu pour des vices, quoi. Et si on le fait en secret, on ne va pas le partager auprès de ceux qui sont autour de nous. Non. Disons simplement nos besoins à Dieu. Nos craintes, nos frustrations, notre désespoir. Regardez les psaumes. C'est souvent pas très joyeux, hein. Il y a bien des psaumes, j'ai jamais fait le compte, mais il y a bien des psaumes où les psalmistes disent leur frustration, leur colère, leur amertume. Mais ils le disent à Dieu. Alors je vous invite cette semaine à réfléchir, à vérifier où vous en êtes, où nous en sommes les uns et les autres, concernant cette pensée dans nos cœurs, pour de vrai, comme disent les enfants. Hein. Pas en théorie, parce que si je vous posais la question, tout le monde dirait oui. Mais effectivement, dans ma vie quotidienne, est-ce que cette grâce, elle est intégrée au plus profond de moi? Est-ce que je sais que Dieu veut mon bien? Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans la complexité des choses, hein, mais l'apôtre Paul nous rappelle dans Romains 8 que, quoi qu'il advienne, tout est fait pour notre bien. Je paraphrase. Parce que c'est vrai qu'il y a des situations qui semblent inextricables, injustes. Et on se demande où Dieu est, et qu'est-ce qu'il est en train de faire, ou pourquoi il n'agit pas. Mais si je sais, d'ailleurs, on a lu tout à l'heure le psaume 23, pour moi c'est un des textes qui a le plus bouleversé ma vie, certainement un de ceux en tout cas. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il y a quelques... peut-être 2-3 ans, je le relisais dans ma lecture personnelle, et tout d'un coup je me suis dit, mais c'est vrai, je crois ça, c'est là, c'est dans mon cœur, c'est acquis. Si je sais que l'Éternel est mon berger, il ne va rien m'arriver, et s'il m'arrive quelque chose, il est là. D'ailleurs, la fin du psaume, vous vous souvenez, hein, on le connaît. Si je marche, par le... si je marche, aidez-moi, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car Dieu est avec moi. C'est très réaliste, hein, il ne s'agit pas simplement de dire « L'Éternel est mon berger, tout va bien, cuicui, les beaux oiseaux. » Non. Je ne craindrai rien car tu es avec moi. D'ailleurs, c'est la promesse fondamentale, sinon la plus importante que Dieu nous laisse. Jésus, quasiment ses derniers mots, c'est dire « Je serai avec vous le lundi, le mercredi, le jeudi, parfois le dimanche. » C'est ça, hein? Tous les jours, jusqu'à la fin de ta vie. Non, jusqu'à la fin de vie. La grâce vécue s'exerçait en vivre encore et encore, en la transmettant aux autres. C'est la petite histoire de la femme samaritaine qui a rencontré Jésus, qui a eu cette révélation de la part de Jésus, de ce que désormais nous pourrions appeler Dieu le Père. L'apôtre Paul ira même jusqu'à dire « Papa » dans Romains 8. Elle est dévoilée, ou elle accepte de se dévoiler devant lui en disant qui elle est. Et c'est une rencontre à la fois très personnelle, très touchante, et qui annonce ce que sera l'Évangile par la suite. Et quand elle a quitté Jésus, elle va tout de suite le raconter à l'autre. Moi, je suis devenu chrétien... 15 janvier 1980, chez moi c'est un jour précis, il y a même une heure, mais je ne me rappelle pas. Alors, j'étais en terminale à Mulhouse, là où j'ai grandi, et ensuite j'étais à Sciences Politiques, pas très longtemps, mais j'y étais. Et je me souviens que je portais un jeans. On est là en 1980, donc hein, je porte un jeans avec marqué « Jesus is Lord ». Donc j'imaginais dans un contexte pareil, cymbaler avec un truc pareil sur le genou. Peut-être que je n'oserais plus le faire aujourd'hui. Hein. Mais j'ai repensé à ça hier soir, et je me suis dit que ça témoignait simplement de la joie que j'avais à être enfant de Dieu, et de ce besoin que j'avais de le dire à ma manière, de manière un petit peu provocatrice. Est-ce que 2 ans après, 5 ans après, 10 ans après, 30 ans après, on a toujours envie de dire aux autres qu'effectivement nous sommes chrétiens et que c'est ce qui fait la joie de notre vie? Est-ce qu'on est plus connu pour des faits sociaux, pour notre éducation, pour notre nom, ou plus connu par le fait qu'effectivement nous sommes des disciples de Jésus, avec tout ce que ça veut dire? Est-ce que nous sommes capables de dire la vérité, de demander pardon quand c'est nécessaire, au point où les gens vont nous interroger sur « Tiens, comment ça se fait que tu réagis, que tu agis comme ça ?» Exercer la grâce, c'est la transmettre, mais c'est aussi, aussi vivre le pardon demandé et accordé. Dans Matthieu 18, vous connaissez cette histoire d'un homme qui a été gracié et à peine sorti de prison, alors qu'il devait une somme faramineuse, irremboursable. Il va faire mettre en prison un de ses copains qui lui devait 100 balles. Et le roi, qui avait gracié cet homme, le remet en prison en disant « t'as rien compris ». Jésus le dit autrement dans le même chapitre. D'ailleurs, quand Pierre s'approche, après avoir entendu cette histoire, il s'approche de Jésus, il demande « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner ? Irai-je jusqu'à 7 fois ?» Hein ? Est-ce qu'on a déjà fait ça ? Je ne suis pas sûr. Non, lui répondit Jésus, je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Manière de parler de l'infini. Vous pensez que Dieu vous a pardonné combien de fois? Combien de fois il m'est arrivé quand nos enfants étaient petits, et quand je m'énervais ou quand ils désobéissaient? Parfois j'étais dur, pas si souvent que ça, mais ça m'arrivait. Et tout d'un coup je me disais, tiens, mais attends, est-ce que Dieu fait pareil avec toi? Force était de constater que c'était rarement le cas. Ça ne veut pas dire que Dieu est un grand-père gâté au ciel, hein. Ça veut dire que Dieu il est plein d'amour, et cet amour s'exerce à notre égard, notamment par la patience, par le fait que si je reviens pour lui demander pardon, il va m'accorder son pardon. Et quand je reviens vers lui, comme le rappelle l'histoire du fils prodigue, eh bien, il ne demande pas de faire des excuses planétaires, il ne demande pas de dire bah, « tu attends maintenant, puis tu vas montrer ta bonne volonté ». Non, il ouvre là, il fait la fête tout de suite, tout de suite. Le pardon est au cœur de l'Évangile et il devrait être aussi au cœur de nos vies. Même si le pardon peut être parfois difficile à vivre, loin de moi de vouloir jeter la pierre à quiconque dans ce domaine, peut-être qu'il faut parfois des semaines, des mois, peut-être même des années pour accéder au pardon. Il ne s'agit pas simplement de pardonner d'une manière mécanique en disant j'ai dit la phrase magique et tout, du coup c'est réglé. Non, il faut que l'attitude de cœur soit là. Il y a des choses qui sont difficiles à pardonner. Mais Jésus rappelle quand même dans ce chapitre 18 que si nous ne sommes pas prêts à pardonner, alors Dieu risque de nous rejeter. Tellement les deux choses sont liées, je ne peux pas accepter la grâce pour moi et la refuser à l'autre. Et dans l'histoire, celui qui se voit refuser, qui retourne en prison, on lui devait beaucoup moins que ce que lui devait à Dieu. Or, nous, on inverse souvent le propos en disant « Oui, mais lui, il m'a fait tellement de choses que je ne peux pas faire. » Eh bien non, moi, j'ai fait beaucoup plus de choses à Dieu, même si je n'ai jamais tué personne, etc., etc. Oui. Vivre la grâce, c'est aussi vivre dans la lumière. J'aime beaucoup ce texte d'un Jean 5, verset 5 au chapitre 2. Si nous prétendons être en communion avec Dieu tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Vivre dans la lumière, ça ne veut pas dire être parfait. Dieu sait très bien qui nous sommes. Il connaît nos limites. Mais ce qu'il n'accepte pas, c'est qu'on joue à cache-cache. C'est qu'on fasse les hypocrites. On voit d'ailleurs dans les évangiles que s'il y a un truc qui énerve Jésus avec les religieux qu'il rencontre, c'est cette hypocrisie. On se cache derrière la religion en disant ben, « moi je fais ceci, moi je fais cela » et donc le reste ça va. Les choses ont heureusement évolué dans nos églises, mais je me souviens quand moi je suis revenu à l'église, puisque j'avais grandi dans cette église à Wittenheim, dans la banlieue de Mulhouse, et quand j'y suis revenu après 3-4 ans, je n'étais pas là, tout joyeux d'être un chrétien, je me suis aperçu que on accueillait les gens, oui, mais alors bon, tes cheveux sont un peu trop longs et ta jupe elle est trop courte, quoi. Hein. Et on en faisait une affaire d'État. Je suis pas en train de militer pour la mini-jupe, mais est-ce que l'évangile est dans ces choses-là? Surtout qu'à côté, il y a d'autres choses qui se voyaient moins, dont on ne s'occupait pas du tout. J'ai appris plus tard que certains hommes étaient maltraitants avec leurs femmes, par exemple, dans l'église. Et ce n'était pas de notoriété publique, mais plusieurs le savaient. Mais ça, on n'a jamais dérangé. Par contre, le jeune qui débarque à 18 ans avec les cheveux longs, ça fait des ordres, quoi. Hein. Puis je termine avec le troisième point, la grâce tremplin vers l'excellence. Parce qu'on pourrait penser que la grâce c'est quelque chose qui est à bon marché, il n'y a rien à faire. Certains me l'ont dit d'ailleurs en ayant partagé l'évangile, je me souviens de conversation, où tout d'un coup la personne comprenant de quoi je parlais me dit « Ah ben c'est trop facile, hein, il suffit de demander pardon quoi. » Et puis après je fais ce que je veux puis je redemande pardon. L'apôtre Paul, en Romains 6, dit « Persisterions-nous dans le péché pour que la grâce abonde ? Puisque nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché ?» Et je n'ai pas le temps de développer ce matin, mais les 15-16 premiers versets de ce chapitre 6 démontrent la mécanique de ceux qui voudraient profiter d'une fausse compréhension de la grâce pour faire ce qu'ils veulent, pour faire n'importe quoi. Si recevoir le pardon de Dieu, accepter son amour, c'est simplement une sorte de bonus, hein, comme on le fait dans le développement personnel aujourd'hui en psychologie, comme ça je me sens mieux, etc. Alors effectivement, on peut continuer à faire n'importe quoi. Mais si on comprend ce que signifie recevoir l'amour de Dieu, son pardon, si on comprend ce qu'il a coûté au Père et au Fils, alors, forcément, notre vie prendra une autre route. Forcément, notre vie ne pourra plus être comme avant. Comprenons donc que l'homme que nous étions, verset 6, autrefois a été crucifié avec le Christ afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. Considérez-vous, verset 11, comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Je me suis marié le 31... Ah oui, c'est marrant, on n'est jamais d'accord avec moi. Elle compte le jour à la mairie, puis moi je compte le jour à l'église. Le 31 août 1985, on est sorti, c'était à l'église mélonite de Pfastatt, pour cause de place. Et moi, j'étais pas bien du tout. J'avais qu'une envie, c'était de partir. On avait prévu un voyage de noces après. J'avais pas du tout envie de rencontrer les gens. J'étais pas bien, quoi. Et en fait, je me suis aperçu que je vivais ce jour, d'une certaine manière, un peu comme un deuil à ma vie passée. Un deuil, effectivement, de dire, ben, cette fois, à partir de maintenant, il n'y aura plus que cette femme, il n'y en aura plus d'autre. Et c'était tellement difficile pour Lina qu'un an après, j'ai fait une fête particulière pour leur premier anniversaire pour essayer de faire oublier ma tête que j'avais eue ce jour-là. C'est pas que j'étais pas content d'être marié. C'est juste que je crois que j'ai réalisé ce jour-là ce que beaucoup d'hommes réalisent à 40 ans ou à 50 ans quand ils ont ce qu'on appelle le démon de Médie. Hein, ils se rendent compte que. Considérez-vous comme mort pour le péché. On ne peut pas continuer à vouloir profiter de ce que le péché nous offre, parce qu'il nous offre des choses, hein, sinon on n'irait pas pécher, on n'est pas idiot. Et puis vouloir en même temps vivre la grâce, suivre le Christ. Il y a un choix à faire. Hein. C'est une question de motivation. Le péché ne sera plus votre maître, verset 14, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. Allons-nous encore pécher sous prétexte que nous ne sommes pas sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous mettant au service de quelqu'un comme des esclaves pour les obéir, vous êtes effectivement les esclaves du maître à qui vous obéissez, ou bien du péché qui entraîne la mort, ou bien de l'obéissance qui conduit à une vie juste? Moi, j'ai arrêté de fumer, j'avais 26 ans, c'était une vraie délivrance. Et puis, j'étais à cette époque-là éducateur, on part faire un camp à Noël dans les Vosges avec les gamins, avec les jeunes. Et puis, il y a un de mes collègues qui me propose une cigarette. Moi, je prends la cigarette, et le lendemain, j'avais le paquet en poche. Et il m'a fallu 2 ans après pour arrêter définitivement la cigarette. Je pense en tant qu'exemple, hein. Pour dire que l'Évangile nous permet de ne plus être esclaves du péché, il nous permet d'avoir le choix. Mais le choix, il faut le faire et le refaire. Alors, en termes de conclusion, j'aimerais vraiment vous regardez chacun dans les yeux et vous encourager à croire que Dieu t'aime d'une manière inconditionnelle. Je ne sais pas si votre vie a été facile ou difficile. Si, quand on parle du père, vous pensez à un homme que vous n'avez pas envie de fréquenter, si votre maman n'a pas toujours été là quand vous auriez aimé qu'elle soit là, si vous avez rencontré des violences X ou Y, qui pourraient vous faire penser qu'effectivement, je ne sais pas si je peux faire confiance. L'Évangile nous invite à être délivrés de l'obsession qui est parfois la nôtre de faire nos preuves, l'angoisse de ne pas être à la hauteur pour découvrir que si l'Éternel est mon berger, je peux l'aider. Merci Père pour ta parole qui me fait du bien, qui me nourrit, qui restaure mon âme et je peux dire effectivement avec David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu l'as prouvé tant de fois, y compris quand j'ai passé par la vallée blanche de la mort. Je te demande de bénir mes frères et sœurs, et si l'un ou l'autre doute des paroles qui ont été prononcées ce matin, que toi-même, par ton esprit, tu puisses graver dans son cœur cette réalité, que tu nous aimes chacun. Amen.